Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire de ce point, actualité en Tunisie, le dirigeant historique d'Ennahda, Rached Ranouchi, écope de 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Au Proche-Orient, 12 Palestiniens sont entrés hier dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, au premier jour de la réouverture très limitée du poste frontière de Rafah. Et en France, après des mois de bras de fer, le budget de l'État pour 2026 est définitivement adopté. Et c'est notre dossier du jour à suivre. Nous l'avons évoqué dans les titres. En Tunisie, le dirigeant historique du mouvement politique conservateur Ennahda, Rached Ranouchi, écope de 20 ans de prison contre 14 ans. En première instance, selon l'agence tunisienne TAP, au total 21 personnes opposants et responsables de la sécurité ont été poursuivies dans cette affaire de complot. 10 sont déjà en détention et 11 ont quitté le pays. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a affirmé qu'il irait en Algérie, mais attendait une amorce de réponse d'Alger aux demandes de Paris sur la libération du journaliste français Christophe Glaise, ainsi que sur les reconduites dans leur pays d'Algériens en situation irrégulière en France. Dans l'actualité, au Proche-Orient, 12 Palestiniens sont entrés hier dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, au premier jour de la réouverture très limitée du poste frontière de Rafah. En Syrie, les autorités locales kurdes ont imposé un couvre-feu ce mardi dans la ville à majorité kurde de Kamishli, dans le nord-est du pays, où les forces gouvernementales syriennes doivent se déployer dans la journée. Dans le reste de l'actualité internationale, le secrétaire général de l'OTAN est arrivé à Kiev ce mardi, quelques heures après une nouvelle attaque massive russe qui a privé de chauffage une partie de la capitale par des températures glaciales records. Des frappes russes menées dans la nuit contre le secteur énergétique ukrainien ont été les plus puissantes de 2026 selon l'opérateur ukrainien DTEK, dont les centrales électriques ont été gravement endommagées et 3 personnes ont été tués ce mardi dans une frappe d'artillerie ukrainienne dans une région partiellement contrôlée par la Russie, selon les autorités locales. Et enfin, en France, 10 hommes âgés de 29 à 50 ans ont été mis en examen à Lille dans le cadre d'une affaire de pédocriminalité commise sous soumission chimique au préjudice d'un enfant de 5 ans, selon le parquet de Lille. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place maintenant au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Et le budget de l'État pour 2026 est définitivement adopté. Dernière motion de censure rejetée après des mois de bras de fer. Le gouvernement l'a fait passer au 49-3 avec l'abstention décisive des socialistes. Sébastien Lecornu veut désormais tourner la page et relancer l'agenda des réformes. On fait le point avec vous, Nadia Bencher.
Épilogue d'un long marathon parlementaire. La France a enfin son budget 2026. Le texte est adopté définitivement ce lundi après le rejet des deux dernières motions de censure visant le gouvernement. La séquence a duré 4 mois avec près de 350 heures de débat et un recours répété au 49-3, 3 au total pour faire passer le budget sans vote. Les motions déposées par la gauche, hors Parti Socialiste et par le Bloc Rassemblement National UDR n'ont pas atteint la majorité requise. Celle des Insoumis, des Écologistes et des Communistes a recueilli 260 voix, loin des 289 nécessaires. Celle du RN et de l'UDR n'a obtenu que 135 voix. Les Insoumis annoncent saisir le Conseil constitutionnel, dénonçant un budget cruel. Le gouvernement, lui, revendique un compromis négocié avec les socialistes qui n'ont pas voté la censure. Sébastien Lecornu dénonce une déconnexion et cible le RN et la France insoumise, accusés de vouloir bloquer et tout rejeter. Place désormais, dit-il, à l'essentiel, indépendance militaire, agricole et énergétique, avec notamment une actualisation de la loi de programmation militaire, un texte d'urgence agricole et la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Second dossier du jour, c'était une promesse d'Emmanuel Macron faite en 2017, la restitution des œuvres acquises pendant la colonisation à leur pays d'origine. Le Sénat a adopté une loi cadre qui va dans le sens de cette promesse. L'Assemblée nationale devra en débattre d'ici cet été. Un texte porté par la sénatrice Catherine Morin-Desailly pour qui la réponse de la France se fait sans déni ni repentance, mais dans la reconnaissance de l'histoire de la France. On l'écoute.
Nous ne sommes pas dans un débat mémoriel qui peut être très polémique en réalité, ni dans une forme de repentance qui peut être un sentiment, qui ne nous fait pas avancer plus qu'autre chose. La reconnaissance, c'est autre chose. C'est la reconnaissance et la réparation de faits passés, peu glorieux, qui ont consisté en effet à une époque lors des guerres coloniales, bien de s'approprier des objets de manière illicite. C'est ça que l'on souhaite pouvoir réparer dans une forme d'authenticité, c'est-à-dire qu'on veut être sûr, voilà, que ces biens ont été mal acquis, comme on dit, ou illicitement acquis, et on souhaite confier ce rôle d'identification, bien sûr, de ces objets, de vérification des critères, à des spécialistes complètement indépendants du politique, pour honorer en réalité les demandes légitimes des États étrangers et faire en sorte que on soit dans la sincérité et la vérité historique de la restitution.
Et donc, ce sera le travail du comité scientifique bilatéral, oui.
Voilà, alors il s'agit surtout dans ce geste de reconnaissance, non pas de mettre un terme à une histoire, mais au contraire de relancer les relations entre les États concernés. D'ailleurs, on associe pleinement les États demandeurs dans le cadre du comité scientifique à parité pour étudier justement les cas de restitution. Et l'idée, c'est aussi de développer toute forme de coopération à travers la restitution. C'est aussi bien des expositions en commun, c'est des éditions en commun, c'est tout un travail de recherche en commun pour raconter aussi l'histoire, valoriser le patrimoine, parce que somme toute, on est face à du patrimoine qui est le patrimoine qu'on pourrait considérer de l'humanité tout entière. Donc l'idée, c'est de relancer, approfondir, développer les partenariats actuels et en constituer d'autres.
Vous venez d'écouter la sénatrice Catherine Morin-Desailly au micro de François-Xavier de Calonne. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.